Radio Open FM. L'Europe et nous, info, histoire et actu. Plongez au cœur de la culture européenne avec la Maison de l'Europe, Europe Direct Limousin.
Aujourd'hui, je suis accompagnée de Marie-Lou, Justine et Adam, une nouvelle voix qui est actuellement stagiaire à la Maison de l'Europe, Europe Direct Limousin. Bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Pour la chronique d'aujourd'hui, nous allons parler de l'implication de l'Union européenne sur un secteur mis de côté par beaucoup d'institutions. Alors que son marché mondial a généré plus de 189 milliards de dollars en 2025, ce sont les jeux vidéo.
Oui, eh bien, figurez-vous que des débats majeurs du Parlement européen sur les jeux vidéo ont eu lieu fin 2022 afin de voter une stratégie européenne sur l'industrie. Alors est-ce que Adam, tu peux nous en dire un peu plus sur ce en quoi consistait concrètement cette stratégie européenne ?
Cette stratégie européenne a marqué le début d'une forte implication de l'Union européenne dans le secteur des jeux. Elle a été débattue et adoptée durant la session plénière le 18 janvier 2023 et elle portait sur trois thématiques majeures. Premièrement, la reconnaissance économique et culturelle du secteur, en reconnaissant les jeux vidéo comme un secteur majeur de la création culturelle pour l'Europe, en employant plus de 100 000 personnes dans le continent, avec un marché vidéoludique européen estimé à 24,5 milliards d'euros en 2022. On note ainsi à une stratégie économique pour soutenir les studios, et notamment les PME et les studios indépendants.
Ensuite, deuxièmement, les jeux vidéo ont été reconnus comme un outil pédagogique pour enseigner des matières et développer des compétences numériques, avec par exemple Minecraft. Pour rappel, c'est le jeu le plus vendu de l'histoire, avec plus de 300 millions de ventes et un film sorti l'année dernière. Il a une version spéciale éducative nommée sobrement Minecraft Education. Elle est destinée aux écoles et aux parents pour enseigner aux enfants les mathématiques, l'histoire, le codage ou encore même la zoologie en incarnant différents animaux de la savane. Les jeux éducatifs permettent donc d'offrir une façon alternative, pédagogique et amusante aux enfants pour apprendre diverses notions.
Et enfin, il y a aussi un accent fait sur la protection des joueurs. On appelle à une approche harmonisée au niveau de l'Union européenne pour protéger les consommateurs, et notamment les mineurs, à ce qui touche de près ou de loin aux achats en ligne et aux loot box ou boîtes à butin en français, qui sont un peu l'équivalent des pochettes surprises, mais elles sont virtuelles et peuvent être payantes ou gratuites en jouant.
Et à quoi servent concrètement les loot box ?
Alors, ces loot box offrent des objets aléatoires allant d'un simple objet cosmétique, comme un vêtement ou le camouflage d'une arme, n'ayant donc aucun impact sur votre jeu, à des objets vous offrant des avantages comme courir plus vite, ou avoir accès à des armes plus puissantes que les joueurs qui ne payent pas. Le problème de ces caisses, c'est qu'on ne sait pas sur quoi on va tomber. Donc c'est surtout ces caisses payantes à portée de main des enfants qui posent problème. Car le système ressemble fortement à celui des jeux d'argent, où l'on retrouve le hasard, l'envie de recommencer et de renchérir, ou encore l'excitation d'avoir un objet spécifique que l'on veut absolument. C'est pourquoi certains pays, comme nos voisins belges, ont décidé de les interdire.
Et suite à cette stratégie, votée au Parlement pour s'impliquer plus dans l'industrie vidéoludique, y a-t-il eu de nouvelles actions de la part de l'Union européenne pour protéger ses consommateurs ou s'investir encore plus financièrement dans ce secteur ?
Eh bien, tout à fait. Si on remonte à pas loin d'un an et quelques, le 20 mars 2025, la Commission européenne, et plus précisément la CPC, donc le réseau de coopération en matière de protection des consommateurs, a engagé une action administrative menée par la Commission européenne à l'encontre de Star Stable, un jeu de simulation d'équitation en ligne pour 4 manquements à la législation européenne. Alors premièrement, on avait des publicités qui ciblaient directement les enfants en les incitant à acheter ou à persuader leurs parents d'acheter de la monnaie virtuelle. Après, on avait des pratiques de pression, donc une incitation aux achats impulsifs en proposant constamment des offres à durée limitée. Ensuite, il y avait aussi qui était reconnu un manque de transparence chez les influenceurs qui étaient payés pour promouvoir le jeu, qui ne disaient pas tout le temps s'ils avaient été payés pour ça ou si c'était du contenu sponsorisé. Et enfin, un manque de clarté sur les prix, car l'argent dépensé pour les achats dans le jeu n'était pas clairement expliqué, ce qui est dangereux pour les enfants qui croient obtenir de la monnaie virtuelle, alors sans aucune contrepartie financière.
Et je tiens à préciser que suite à ce signalement, l'entreprise avait un mois pour proposer des engagements et remédier à ces... Et en parallèle à cela, le réseau CPC a au final pris exemple de cette action comme pour une jurisprudence. Donc il a proposé des engagements concrets pour les consommateurs et surtout les mineurs, avec certaines mesures comme premièrement l'arrêt des publicités ciblées directement aux enfants, avoir une transparence claire sur le prix réel des achats, et enfin, surveiller le contenu promotionnel non signalé par les influenceurs.
Donc j'en conclus que l'Union européenne se limite surtout à l'aspect administratif.
Eh bien, pas que. L'Union européenne offre aussi des subventions à des jeux pour ceux qui, selon elle, montrent un réel intérêt de promotion de valeurs européennes ou simplement la mise en valeur de la culture locale au sein du continent. Pour cela, elle se tourne vers son programme de financement Creative Europe Media qui encourage le développement du monde audiovisuel.
Et un exemple de financement direct européen pour les jeux est la subvention de 150 000 euros pour The Witcher 3 Blood and Wine, car il puise son inspiration dans les régions viticoles et oléicoles, donc la culture et l'exploitation des oliviers, du pourtour méditerranéen dans le sud de la France, l'Italie, la Grèce ou encore le Portugal, un pays limitrophe à l'Espagne. Mais elle prend également de l'inspiration dans l'architecture italienne à l'époque de la Renaissance.
Il y a aussi un financement indirect européen avec la CNC, donc le Centre National du Cinéma et de l'Image Animée. C'est un établissement administratif français qui est un acteur clé du jeu vidéo car même s'il est financé au niveau national, il joue un rôle important dans l'écosystème européen. Il soutient les studios grâce à des aides comme le Fonds d'aide aux jeux vidéo ou même le crédit d'impôt. Et ces dispositifs permettent souvent aux projets français comme Cairn, un jeu d'escalade sorti le 29 janvier par un studio français qui est basé à Montpellier, qui a pu devenir éligible à des financements européens comme ceux du programme Europe Créative.
Autrement dit, le CNC ne finance pas directement les jeux avec de l'argent européen, mais il agit comme un tremplin vers ses aides.
Donc si je comprends bien historiquement parlant, c'est récent que l'UE est vraiment impliquée dans ce secteur.
Alors, pas tout à fait, peu de gens le savent, mais c'est l'Union européenne qui est à l'origine du système PJ ou Pan-European Game Information. Donc, c'est un système d'évaluation européen des jeux vidéo qui a été créé pour aider les consommateurs et notamment les parents à s'informer sur l'âge approprié pour jouer à un jeu accompagné de pictogrammes. Donc par exemple, si le contenu est considéré comme sensible, on peut s'attendre à un langage grossier ou à de la violence. Donc c'est donc en avril 2003 que ce système a été utilisé pour la toute première fois. Mais de nos jours, il est utilisé par 35 pays européens et classifie des dizaines de millions de jeux chaque année.
De plus, du côté des citoyens, il y a eu une initiative citoyenne européenne. Donc je ne sais pas si vous savez, mais c'est une sorte de pétition à l'Union européenne qui permet aux citoyens européens de proposer une loi à la Commission. Et elle s'appelait Stop Killing Games. Elle a été lancée et pu atteindre les 1 million de signatures demandées, et 1,3 million précisément, qui obligeait ainsi la Commission européenne à agir concrètement pour être débattue au Parlement. Elle portait sur le fait de contester la légalité des éditeurs qui détruisaient des jeux vidéo qu'ils avaient eux-mêmes vendus aux clients.
Pour rejoindre ce que tu dis, Marie-Lou, un nombre croissant de jeux sont vendus effectivement comme des biens, sans date d'expiration indiquée, mais conçu pour être complètement injouable dès que le support de l'éditeur cesse. Selon le fondateur de ce mouvement, cette pratique est une forme d'obsolescence programmée. Et elle est non seulement préjudiciable aux clients, mais rend la préservation pratiquement impossible. De plus, dans de nombreux pays, aucune loi n'est mise en place actuellement pour protéger les consommateurs des jeux.
En conclusion, que peut-on en tirer de cette implication de l'UE pour les jeux ?
D'une part, du côté international, l'Union européenne fait face aux géants américains et asiatiques. Elle vise donc à protéger son identité européenne en réduisant sa dépendance vis-à-vis des studios étrangers, en facilitant les aides et en privilégiant les studios locaux. De surcroît, l'Union européenne lance des initiatives transfrontalières comme des centres de formation pour former des talents et éviter la fuite des cerveaux, qui est le nom officiel pour désigner le phénomène de migration de hauts diplômés et scientifiques vers d'autres pays après avoir été formés et financés par leur pays d'origine.
Et d'autre part, du côté européen, l'Observatoire européen des jeux vidéo a été fondé en 2024 afin d'analyser la politisation croissante des jeux, son impact sociétal et tout simplement comprendre l'impact que les jeux peuvent avoir dans nos vies.
Eh bien, merci beaucoup à tous les trois. Avant de clôturer cette chronique, on souhaite une bonne continuation à Justine pour qui c'était la dernière chronique. À bientôt pour de nouvelles aventures.
À bientôt, merci.
À bientôt.
À bientôt.
C'était Europe Eno. Info, histoire et actu autour de la culture européenne. À retrouver chaque semaine avec la Maison de l'Europe, Europe Direct Limousin, 51 avenue Georges Dumas à Limoges. 05 55 32 47 63 et sur le www.europe-limousin.eu.